Bonjour, nous voici réunis pour cette dernière séance du séminaire sur les bibliothèques invisibles. Et à cette occasion, donc, je reçois Christine Lombez. Christine Lombez, qui est professeure de littérature générale et comparée à l'Université de Nantes, membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de traductologie, de politique et des relations entre politique et traduction, spécialiste aussi de la poésie européenne depuis l'Antiquité, mais aussi en particulier de la poésie allemande depuis le 19e siècle. Et Christine Lombez est l'auteur de très nombreux livres sur la poésie moderne, sur les traductions de la poésie, par exemple sur Philippe Jacotet, poète et traducteur de Rilke et Hölderlin, sur les traductions de la poésie allemande en français dans la première moitié du 19e siècle. Et son dernier livre en tant qu'auteur est un très, très beau livre intitulé, un très beau titre du reste, « La seconde profondeur, la traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe » au XXe siècle, et c'est paru aux Belles Lettres en 2016. Ça, c'est son dernier livre, sauf erreur, en tant qu'auteur unique. Mais Christine Lombez est aussi grande chercheuse dans des groupes, en collectivité. Et elle a participé à, d'abord, un très beau, très grand projet sur l'histoire des traductions en langue française, auquel on collaboré, qui a été mené par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson en particulier. Et Christine Lombez a participé en particulier et a dirigé les volumes consacrés à l'histoire des traductions en langue française au XIXe siècle et au XXe siècle. Et ces volumes, tout à fait énormes, hein, ils font plus de 1000 pages, parfois presque 2000 pages chacun, tout à fait fondamentaux pour l'histoire des traductions en langue française, sont parus chez Verdier en 2012 et en 2019. Mais si j'ai invité Christine Lombez ici à venir parler dans ce séminaire, c'est parce que Christine Lombez a aussi dirigé pendant 5 ans une équipe importante intitulée « Traduire sous l'occupation » composée de chercheurs français et internationaux qui a travaillé sur les traductions pendant l'occupation allemande, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui permet de poser la question. Je pense que là, je ne vais pas déflorer la problématique, si je peux dire, mais que vous allez développer, mais permet de développer cette question des bibliothèques invisibilisées, de la création peut-être de nouveaux canons, en tout cas de la sélection d'œuvres dans un contexte trouble politiquement comme celui de l'occupation. Et l'un des résultats de ce travail collectif a été le livre qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a un an aux presses de l'Université François Rabelais de Tours, « Traduire, collaborer, résister, traducteurs et traductrices sous l'occupation ». Et c'est, je crois, de cela que va nous parler Christine Lombez dans cette dernière séance de séminaire avec une communication intitulé donc « Traductions et nouvelles bibliothèques en temps de guerre, le cas de l'occupation allemande 1940 à 1944 ». Nous sommes très heureux de vous accueillir, Christine Lombez, et je vous donne la parole.
Merci beaucoup pour cette présentation et aussi mes remerciements pour l'invitation que vous m'avez faite 2 années de suite. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous physiquement aujourd'hui pour les mêmes raisons que l'an dernier, mais je me réjouis de pouvoir être là, à distance, là et pas là en même temps, et de pouvoir vous exposer un certain nombre de résultats du programme de recherche que vient de vous présenter William Hart, qui porte effectivement sur la question de la traduction littéraire sous l'occupation, qui a été l'enjeu en fait de mes 5 années de délégation à l'Institut universitaire de France. Donc, je rappelle brièvement, ce projet avait pour ambition de cartographier la pratique de la traduction littéraire durant l'occupation dans 2 pays au destin assez proche, à savoir la France et la Belgique, qui ont connu 2 régimes d'occupation simultanés, hein, de dépouiller les publications en France et en Belgique occupées dans les périodiques et dans les volumes, pour de localiser ces publications, de retracer la trajectoire des intermédiaires et des traducteurs, qu'ils soient critiques, enseignants, journalistes, poètes, et également d'analyser les discours qui ont été tenues sur la traduction à cette période, parce que pendant cette période d'occupation, on parle beaucoup et on réfléchit beaucoup sur ce que traduire veut dire. Et c'est intéressant et je vais en reparler tout à l'heure. Il faut savoir également que jusque-là, les textes traduits parus dans les journaux, dans les revues, n'avaient jamais réellement été considérés parce qu'ils avaient tout simplement échappé au radar bibliométrique. Hein. Les traductions parues en revue pendant cette période si spécifique étaient vraiment passées un tout petit peu à travers hein, les études et on ne s'était vraiment pas intéressé à cette question. Jusqu'à ce que je découvre ce sujet, si on peut dire, durant précisément mes recherches effectuées dans le cadre de l'histoire des traductions en langue française, 20e siècle, dont vous avez parlé. Et donc, pour donner plus de visibilité à ces traductions, à ces bibliothèques de traductions hein, dont on va parler, une base de données numériques inédite a été mise en ligne il y a à peine un mois, donc en fait, c'est tout récent, consultable à l'adresse que vous voyez sur la diapo, qui permet donc, qui recense toutes les traductions que nous avons rassemblées, hein, l'équipe et moi-même, pendant ces 5 ans de travail. Donc je parlais de cette base de données qui est vraiment inédite, hein, puisqu'elle met à la disposition des chercheurs toutes les traductions, en tout cas un grand nombre de traductions qui ont été publiées dans le champ français et francophone, durant les années noires. Hein. Et cela, en fait, équivaut à presque 5000 références publiées en France et en Belgique, considérant toutes les langues, tous les genres et tous les auteurs ensemble. Hein. Donc, c'est un chiffre assez grand et assez intéressant. Donc, ça laisse augurer aussi, à la faveur de ce volume de références, de nouvelles lectures possibles des modalités de la vie littéraire française dans ce contexte historique tout à fait exceptionnel. Et ça permet également de révéler, précisément le sujet de votre séminaire, de nouvelles bibliothèques d'auteurs traduits en langue française qui soit promus par l'occupant, soit publiés de manière subversive ou clandestine. Donc on verra qu'il y a un rapport d'opposition entre ce que veut l'occupant et les réactions qui peuvent venir de différents milieux à la fois résistants et aussi opposant au sens le plus large. Donc, cette base de données permet de faire des statistiques intéressantes par œuvre, par langue, par auteur, par support publié. Hein. Donc, je pense que c'est un outil qui va vraiment appeler à être utilisé pour analyser cette période. Alors, donc, quelle est cette politique de traduction sous l'occupation hein. Donc, c'est une politique qui rend, je dirais, la traduction sous l'occupation relève hein, dans ces circuits officiels d'une pratique effectuée sous contrainte. Pour reprendre l'expression de Johanna Popa dans son ouvrage, elle se situe dans un cadre de contrôle très étroit de l'imprimé hein, et donc va susciter par réaction aussi des forces, je dirais, dissidentes ou centrifuges. Donc, durant l'occupation, prévaut une logique de ce que j'appellerais une logique d'importation très contrôlée et surveillée. À savoir qu'il faut traduire le plus d'auteurs possible allemands en français afin d'imprimer sa marque. Hein. L'occupant veut imprimer sa marque et veut réorienter idéologiquement le lectorat hein, français. Je cite même les mots de l'occupant, il s'agit de communiquer au peuple français des valeurs intellectuelles et culturelles allemandes. Fin de citation. Donc, l'enjeu est clair. Hein, il s'agit d'une politique de rééducation, de réorientation. Certes, officiellement, une réciproque est prévue, c'est-à-dire qu'on pense aussi éventuellement à traduire de bons auteurs français. Quand je dis bons auteurs, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne avec l'idéologie nationale-socialiste. On pense à traduire des bons auteurs français en allemand pour faire un pendant, mais il faut voir que dans les faits, cela ne va vraiment pas aboutir, dans la mesure où il y aura à peine une petite dizaine d'œuvres d'auteurs français qui ont été traduits, parmi lesquels donc Drieu La Rochelle, Henri de Monterland, Jacques Chardonne, Alphonse de Chateaubriand, et j'en cite, je ne cite pas tous, mais voilà, c'est donc une politique de traduction très déséquilibrée sous des discours qui affirment exactement le contraire. Donc, première chose, comment ça se passe, comment ça se présente? Eh bien, elle se décline, cette politique de traduction, en plusieurs volets. Hein. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle l'action Übersetzung, hein, c'est-à-dire l'action traduction, hein, Übersetzung, traduction, qui est mise en place par l'occupant dès son arrivée à Paris, hein, dès les premiers jours de l'occupation. Et cela va se décliner en plusieurs initiatives, à savoir la constitution d'un comité de traduction franco-allemand, et l'établissement d'une liste d'ouvrages prioritaires allemands à traduire en français. Cette liste est établie par l'Institut allemand de Paris, qui dépend étroitement de l'ambassade allemande du Reich. Donc, ce comité de traduction franco-allemand se réunit dès le mois de septembre 1940 et va comporter plusieurs types de personnages, hein, des représentants de la propagande allemande, des polyglottes du ministère des Affaires étrangères allemand, des personnalités françaises issues du monde des lettres, du monde de l'édition, notamment Bernard Grasset, des universitaires, hein, germanistes, comme Maurice Boucher ou bien Albert-Marie Schmitt, des personnes du monde économique également. On voit très bien que cette politique est préparée très en amont, hein, très en amont parce qu'elle s'installe dès l'arrivée des Allemands à Paris. Donc on voit qu'il y a un intérêt politique porté par l'occupant à la traduction littéraire en français, dans leur volonté justement d'imposer à la France ces nouvelles bibliothèques qui seront cette fois en accord avec leur ligne idéologique. Alors, cette liste Mathias comportait, bon, malheureusement elle est perdue, on n'en a pas gardé d'exemplaire, mais elle comportait environ 500 titres d'auteurs allemands à traduire prioritairement, hein, auteurs allemands, c'est-à-dire aussi bien des belles lettres que de l'histoire de l'art, de la philosophie, du droit, hein, donc un panorama assez large de la vie intellectuelle allemande, mais dans une optique qui est compatible avec l'idéologie nationale-socialiste, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, d'imposer une ligne idéologique. De ce fait, on va assister à la naissance d'un panthéon littéraire que j'appelle revisité, hein, puisque dans le cadre de cette action de traduction et de cette liste, l'occupant va faire la promotion de certains auteurs en particulier qui, à ses yeux, représentent la bibliothèque idéale de la vraie, ce qu'ils pensent être la vraie germanité. Hein, donc je vous ai mis quelques noms, Bruno Brehm, Hermann Ster, Ina Seiden, Paul Alberdes, Aldo von Schirach, et d'autres. Si vous ne les connaissez pas, c'est normal, parce que ce n'étaient pas les meilleurs, et donc ils se sont assez vite fait oublier à la fin de la guerre. Mais ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre cours, à savoir qu'il s'agit effectivement de constituer un nouveau canon pour faire oublier un autre canon, ou en tout cas une autre bibliothèque. Et cette bibliothèque qu'il fallait faire oublier, hein, c'était celle des écrivains émigrés arrivés en France dans les années 30 après la montée du fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, les nazis, les occupants considéraient que la France avait une vision de l'Allemagne qui émanait de ces auteurs-là. Et donc, ces auteurs, c'était des auteurs de l'émigration, comme les membres de la famille de Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Alfred Döblin, mais les Autrichiens, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, etc. On pourrait citer beaucoup d'autres noms, hein, mais parmi les plus importants. Donc, évidemment, des auteurs qui étaient des contestataires, souvent juifs, qui étaient considérés par l'occupant comme des auteurs à proscrire, hein. Qui se sont d'ailleurs très vite retrouvés dans les listes de censure dont je parlerai tout à l'heure. Donc, il faut faire oublier ces auteurs et imposer une nouvelle germanité qui sera la germanité, je dirais, qu'on appelle Völkisch en allemand, c'est-à-dire qui exalte la supériorité raciale de l'Allemagne. Hein, et donc, les auteurs qui développent cette vision seront particulièrement encouragés, hein, parce qu'il s'agit d'affirmer la supériorité raciale du peuple allemand sur les autres peuples. Ce qui est intéressant à noter, c'est que certains noms qui étaient dans cette liste d'ouvrages à promouvoir par la traduction, dans cette fameuse liste Mathias, certains noms étaient loin de faire l'unanimité dans certaines instances nationales-socialistes. Alors, c'est un peu paradoxal, mais on voit qu'il y avait des tensions visiblement, puisque dans un rapport que l'on peut consulter au Centre de documentation juive contemporaine, on voit une remarque, hein, sur la politique, je cite, « personnelle étrange de l'Institut allemand ». hein, donc l'Institut allemand qui pilotait cette politique de traduction prioritaire. Et donc on comprend que entre les membres de la propagande et les membres de l'Institut allemand, il devait y avoir des tensions, pour ne pas dire plus, parce que certains ouvrages, certains auteurs qui étaient dans la liste étaient considérés comme indésirables par la propagande à Berlin. Donc, on a des auteurs comme, par exemple, Hans Falada, Ernst Jünger, Rainer Maria Rilke, hein, qui fait partie des auteurs à promouvoir par la traduction. Or, ces auteurs-là sont justement un peu marqués au fer rouge, hein, en tout cas considérés comme non recommandables par les services de la propagande de Berlin. Hein, donc, on voit qu'il y a peut-être déjà des divergences de vues, hein, dans la manière d'affirmer ce qu'est une politique culturelle de la traduction. Et la bibliothèque de l'Institut allemand de Paris aurait abrité d'ailleurs plusieurs centaines d'ouvrages qui étaient considérés comme déviants idéologiquement, hein, ce qui a conduit le directeur de l'Institut à être rappelé temporairement à Berlin une fois que ça a été constaté. Donc, voilà déjà ces petits éléments de réflexion qui sont quand même intéressants parce qu'on voit qu'il n'y a pas une véritable ligne claire sur ce qu'on veut représenter de la culture allemande nazie. Hein, on ne s'entend pas vraiment sur cette notion. Hein. Conséquence, alors, de quoi s'agit-il concrètement? On commence à traduire, hein, donc les choses se mettent en place, et donc de décembre 1940 à août 1944, on observe une mainmise de plus en plus affirmée des traductions de l'allemand en français. C'est absolument notable et ce n'est pas de nature à nous étonner, avec une importance particulière donnée à la poésie. Et cela, c'est un peu ce qui a été la surprise, en tout cas, de nos travaux, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la poésie était majoritaire dans la traduction. Donc, les promoteurs de cette action de traduction avaient donné une importance particulière à la poésie pour des raisons que j'essaierai tout à l'heure d'esquisser. Même si c'est encore dans le cadre de travail que je mène, qui n'est pas encore achevé. Donc, il y avait en plus une ration, sont donnés de trois listes de censure, hein, qui s'appellent donc les listes auto, qui datent de 1940, 1942, 1943. Donc, ces trois listes de censure combinées à la liste de traduction à promouvoir. Donc, c'était des traductions de l'allemand, hein, la liste Matthias. Ces listes de censure auto éliminaient progressivement l'anglais, hein, tous les ouvrages issus de l'anglais, donc hors ce qui est considéré comme classique, c'est-à-dire publication antérieure à 1870, élimination du polonais, élimination du russe à partir de 1943, hein, dans la troisième version de la liste, parce que chaque fois la liste était un petit peu retoilettée, hein, et on ajoutait des interdictions. La réalité est un petit peu différente, hein, parce que on se rend compte que certains titres continuaient, certains titres notamment de l'anglais, hein, certains ouvrages continuent à circuler sous le manteau, notamment la traduction d'Autant à l'emporte-le-vent, publiée juste avant la guerre, était encore disponible sous le manteau. Hein, on n'avait pas le droit de la mettre en vitrine, mais on pouvait encore l'acheter jusqu'à épuisement du stock. Et puis on voit que, c'est ce qu'a révélé aussi la recherche, hein, on voit que par exemple, on a traduit « La chambre de Jacob » de Virginia Woolf en 1942, or, normalement, elle n'aurait pas dû être traduite, ou bien on a traduit aussi une nouvelle de Joyce en 1944 dans la NRF. Donc, les choses sont à nouveau ici un petit peu… il y a vraiment du jeu, hein, tout n'est pas très, très clairement fixé. Mais ces listes auto ont une conséquence vraiment sur la traduction, à savoir que, notamment de la poésie, à savoir qu'elles donc, elles font émerger des langues et elles en font disparaître d'autres. Et donc on revient à nouveau ici dans cette dialectique entre l'oubli et la mémoire. Hein, donc l'anglais, le polonais, le russe disparaissent, en tout cas officiellement, et on voit l'émergence d'œuvres espagnoles, italiennes, pas étonnant, pour des raisons d'affinité, on va dire, politique. On voit arriver beaucoup de langues nordiques, le suédois, le danois, le finnois. Tout à l'heure, vous parliez des sagas islandaises. C'est vrai qu'il y a une grosse actualité aussi des sagas islandaises sous l'occupation, en traduction. Hein. On s'intéresse aux langues orientales, on s'intéresse aux hongrois, aux tibétains. Donc, on voit arriver de nouvelles langues, de nouveaux auteurs. Hein. Mais encore une fois, les choses sont un tout petit peu plus compliquées parce que si on regarde d'un peu plus près, hein, on voit que les auteurs anglo-saxons Certes, ceux qui sont enregistrés au dépôt légal disparaissent progressivement, hein, mais en fait, on les voit réapparaître ailleurs sur des supports qui sont moins contrôlés, comme les revues, hein, donc, et qui ne sont pas justement enregistrés nécessairement au dépôt légal. Donc, il faut vraiment nuancer toutes ces données. Et selon ce que l'on a actuellement dans la base, traduction sous l'occupation, donc plus de 2700 références de poésie étrangère en traduction sont parues, tout support et langue confondues. Hein. Alors, juste pour l'information, hein, mais dans le cas des œuvres espagnoles, on va surtout traduire des œuvres du siècle d'or, par exemple, et des auteurs comme Góngora ou comme Saint-Jean de la Croix, également, beaucoup traduits. Dans le cas de l'Italie, de l'italien, puisqu'il y a aussi pas mal de traductions d'italien, on traduit des auteurs qui figurent dans les cercles assez proches de ce qu'on appelle les intellectuels de Mussolini. Donc là aussi, on choisit vraiment dans les canaux officiels des auteurs qui ne posent pas de problème. Hein. Mais encore une fois, les choses sont plus complexes parce que on voit que, en dépit des interdictions des censures, de la censure, eh bien, certaines traductions continuent à exister, mais autrement. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, cela, alors là, vous avez justement une photo de la liste auto, hein, donc des fiches qui correspondaient à ces listes de censure et des auteurs à interdire, hein, qui étaient envoyés à tous les éditeurs, hein, qui devaient eux-mêmes s'auto-censurer, en fait. C'était un peu les termes de la négociation. On n'interdisait rien, c'était les auteurs qui ne faisaient pas public, qui ne sortaient pas leurs ouvrages. Hein, donc, c'était assez facile. Donc, cette initiative pour orienter le lectorat français va de pair avec une prise en main, bien sûr, des espaces éditoriaux, hein, justement dans la perspective d'établir de nouvelles bibliothèques conformes. Donc, déjà, on a des créations de collections qui sont dédiées à ce qu'on appellera les bons ouvrages étrangers. Hein, donc, Gallimard crée une collection des classiques allemands. Alors là, il ne prend pas trop de risques parce qu'en fait, le classique, bon, c'est jamais très, très idéologiquement marqué. Hein, donc, les classiques allemands, c'est une façon de faire plaisir à l'occupant, mais pas trop s'engager. Hein. Vous voyez qu'Aubier-Montaigne fait pareil, collection bilingue des classiques étrangers. Hein. Chez Albin Michel, on a les collections des maîtres de la littérature étrangère. Chez Sorlo, on a les maîtres étrangers, enfin, donc toutes les maisons d'édition qui ont échappé, enfin, qui ont été arianisées, créent leur propre collection pour accueillir justement ces traductions qui doivent paraître. Donc on crée un cadre pour les accueillir. Et on sait d'ailleurs que lorsqu'on a, on publie des traductions de cette liste Mathias, on sait que l'on aura la possibilité d'avoir le papier pour imprimer, parce qu'il faut comprendre aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il faut comprendre qu'on est dans une période de fort rationnement du papier et que la censure, elle se fait aussi par ce biais-là. C'est-à-dire, si on n'accorde pas le papier, eh bien, on ne publie pas l'ouvrage. Donc, si, au contraire, une maison d'édition se dit prête à publier une traduction de tel auteur qui est sur la liste, Mathias, eh bien, il va tout de suite passer la censure et il va avoir le contingent de papier nécessaire pour publier son ouvrage. Hein, donc, c'est de manière très, très subtile, hein, une façon de vraiment prendre en main tout cela. Donc, ici, vous avez donc dans le point de vue de l'éditeur. Et puis, on voit que, également, cette prise de contrôle se prolonge dans la presse à travers des pages culturelles qui sont elles-mêmes très orientées. Hein, donc, dans une certaine presse, une presse, on va dire, un tout petit peu littéraire, ou en tout cas qui a une prétention à faire connaître des réalisations culturelles littéraires, il y a en général une page consacrée à la littérature et aux arts. Alors, par exemple, ici, vous avez une page qui s'appelle « Connaître l'Europe », qui a été concédée au journal, à l'hebdomadaire Comédia, en échange de sa reparution, puisque le journal avait été interdit. Mais, en fait, cette page est pilotée par l'Institut allemand. Ça ne se sait pas, on ne le dit pas, bien entendu, mais c'est l'Institut allemand qui décide de qui va être évoqué dans cette page de Connaître l'Europe. Vous avez également une bibliothèque européenne, alors, toujours dans le Comédia, hein, c'est une bibliothèque dans laquelle, en fait, c'est plutôt une chronique dans laquelle on fait la revue de tous les ouvrages qui sont publiés en Allemagne ou en traduction française à cette époque-là, durant la période de l'occupation. Hein, donc, bibliothèque européenne. Présence européenne également dans le journal La Gerbe d'Alphonse de Chateaubriand. Donc, vous voyez que chaque fois, ce qui est important, c'est visiblement, c'est la notion d'Europe. Hein, c'est la notion d'Europe, mais d'une Europe allemande, en fait. Hein, c'est une Europe dans laquelle l'Allemagne aura pris toute sa place et on fait croire à la France qu'elle peut jouer dans ce concert-là. Hein, c'est un discours qu'on lui fait entendre. Cela étant dit, ça n'a jamais été l'objectif des occupants. Hein, c'est juste une manière d'apaiser l'orgueil français. Hein, mais on sait que l'occupant n'a jamais eu l'intention de faire jouer un rôle à la France en Europe sur le plan culturel. Donc, pour vous donner une idée, voilà un exemple de cette page dans un exemplaire de Comédia du 2 octobre 1943. Donc, vous avez cette page, Connaître l'Europe, dont vous voyez qu'elle est entièrement hein, sur 5 colonnes dédiée à la poésie allemande. Donc, journal, effectivement, qui est vraiment piloté par l'Institut allemand, particulièrement cette page-là. Hein, uniquement des traductions de poésie allemande. Donc, la raison officielle de cette offensive est clairement affirmée. Hein. Il s'agit de corriger l'image fausse, voire inexistante, qu'avait la France de la littérature et de la culture allemande depuis l'entre-deux-guerres. Je dis inexistante parce qu'il y a aussi des arguments comme quoi la France n'a jamais traduit assez de culture, de poésie allemande ou de littérature allemande depuis, en gros, la Première Guerre mondiale. Et donc, la France ignore superbement son voisin allemand, alors que l'Allemagne a toujours mis un point d'honneur à traduire les auteurs français. Donc, il y a une opposition qui est toujours, qui ressort très, très souvent dans les propos. Nous vous avons beaucoup traduit, vous ne nous avez jamais traduit, donc vous ne nous connaissez pas. Hein. Donc, il faut que vous nous connaissiez, et vous allez nous connaître par la traduction. Mais particulièrement par la traduction de poésie, parce que c'est encore par la poésie qu'on connaît le mieux un peuple. Et ça, c'est aussi un argument qui revient sans cesse, et qui explique justement ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir pourquoi il y a tellement de poésie traduite. Hein, l'occupant pense qu'en traduisant la poésie, eh bien, il crée les conditions de ce qu'on va appeler un rapprochement franco-allemand. Mais tout cela, bien sûr, est un discours fictif, hein, mais c'est un peu le discours officiel que l'on entend dans les milieux de l'occupation. Mais simplement, cette promotion sur mesure va susciter des réactions. Hein. Il est évident que ça ne va pas laisser le public ou les éditeurs ou les traducteurs de marbre. Et il va y avoir beaucoup d'opposition, surtout dans la zone sud, hein, du temps où la France est encore divisée en deux, hein, zone nord, zone sud, dans l'empire colonial aussi. Hein, il n'y a pas qu'à l'époque, la France a encore un empire colonial et l'éloignement de la métropole fait que une plus grande liberté, en fait, est possible. Et donc, on va voir que les revues culturelles qui publient hein, dans cette zone-là sont de potentiels foyers de contestation. Donc, ce sera le point suivant, la traduction comme espace de contestation. Hein. Donc, il y a une contestation visible par l'intermédiaire de médiateurs et de supports spécifiques, particulièrement notable après 1943. Hein, 1943 étant le tournant psychologique de la guerre, puisqu'à ce moment-là, on se rend compte que l'Allemagne va certainement perdre la guerre. Et ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont les personnes se positionnent. Hein. Il va y avoir une prise de distance de plus en plus nette vis-à-vis de ce que souhaite faire l'occupant. Alors, en ce qui concerne la poésie, qui est le domaine dont je m'occupe et que j'ai particulièrement travaillé, on se rend compte que l'éventail des poètes étrangers est vraiment très, très large, hein, eu égard aux circonstances, et révèle totalement ce clivage. Hein, c'est-à-dire que selon l'orientation que l'on veut donner à la traduction, eh bien, on aura par exemple des poètes allemands d'obédience nationale-socialiste, on va dire, des poètes encensés par le régime nazi, mais on aura aussi des poètes opposants au régime nazi, comme par exemple Bertolt Brecht ou bien Erich Kästner, pour citer que quelques noms. Pour l'anglais, ce sera pareil, on aura des traductions d'auteurs classiques et on aura aussi des traductions d'auteurs totalement modernes, hein, donc, qui sont a priori interdits par la censure. Même chose hein, pour les poètes espagnols. On ne parle pas de la poésie espagnole de la même façon si on est au nord ou au sud ou même dans l'empire colonial. Hein, un poète comme Lorca, par exemple, suscite beaucoup l'intérêt. Mais c'est très intéressant de voir qu'on ne voit pas le même Lorca au nord et au sud, hein, même pas du tout. Hein, donc c'est, chaque choix est en fonction en fait, de ligne que l'on veut affirmer. Donc, on a également beaucoup de langues qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des langues nouvelles, hein, comme des langues finno-ougriennes, le tibétain, les langues régionales. Hein, tout cela vient compléter justement ce panorama qui est déjà assez riche. Alors, ce qui m'intéresse ici le plus, dans cette perspective de contestation, c'est le rôle joué par les anthologies. Parce qu'une anthologie, c'est une petite, on va dire une petite bibliothèque, c'est une bibliothèque en miniature constituée avec une idée directrice hein, qui peut être très orientée politiquement. Et c'est le cas ici en particulier. Donc c'est ce que j'appelle l'anthologie comme champ de bataille symbolique. Ici, nous avons un cas d'école avec l'opposition entre une anthologie publiée dans le cadre de la collaboration, publiée en 1943 chez Stock, et une anthologie résistante qui répond à cette première anthologie en 1944. Alors là, je ne sais plus exactement de combien de temps je dispose, parce que tout cela est avec le retard, je ne sais pas exactement si j'ai encore un peu de temps, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on est encore dans cette idée d'effacement. C'est-à-dire que l'anthologie résistante qui est parue aux éditions de Minuit en 1944, qui s'appelle « Les Bannis », va être exactement une entreprise d'effacement de l'anthologie publiée un an plus tôt chez Stock, hein, donc anthologie de la poésie allemande des origines à nos jours. Hein. Donc pour dire deux mots sur ces deux volumes, hein, je passerai assez rapidement. Le premier, donc l'anthologie chez Stock est, est une publication d'envergure pilotée par l'Institut allemand en deux volumes quand même de à peu près 300 pages chacun. Hein, donc c'est une entreprise vraiment de référence. Qui vise à faire un panorama de la poésie allemande depuis, en gros, depuis les mines Singer jusqu'à la génération de poètes qui ont combattu en France pendant la guerre de 1914. Hein, donc, on a vraiment un panorama très, très large. Il y a des poètes classiques dedans, beaucoup de poètes classiques. Il y a des poètes dont on se demande ce qu'ils viennent faire, notamment quelqu'un comme Rilke, parce que Rilke est considéré comme un poète indésirable à cette époque-là par l'occupant. Hein, Rilke est considéré comme un pacifiste un peu efféminé, pas du tout viril, et donc ne correspond absolument pas à l'image que, que l'Allemagne veut donner hein, de ses poètes. Il y a Heine, qui est absent officiellement, mais qui est présent en sous-marin, parce que le traducteur publie un texte, enfin insère un texte de Heine sans dire qu'il est de Heine, hein, donc seuls ceux qui savent se rendent compte, et sinon Heine est absent de cette anthologie. Par contre, le deuxième volume est un volume entièrement, on va dire, enfin, le deuxième moitié du deuxième volume est un volume entièrement consacré aux poètes nazis, aux poètes nationaux-socialistes. Et donc, il y a une visée propagandiste qui est très claire. Hein, et quand on voit les notices bibliographiques, on se rend compte qu'on met l'accent justement sur l'affiliation de tels poètes à la SS, à la SA, son implication dans les échelons du parti. Donc, on montre bien qu'on valorise cet aspect-là, hein, cet aspect idéologique, même si parfois il est un petit peu minoré pour pas trop faire peur peut-être aux lecteurs français, mais ça transparaît malgré tout. Alors, cette anthologie, hein, qui est une entreprise sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est absolument intéressante, vraiment passionnante même, que je ne peux pas vraiment ici approfondir, a bien sûr a entraîné des réactions très diverses. C'est allé de l'enthousiasme de quelqu'un comme Céline au dégoût de ceux qui étaient justement opposants, hein, voire résistants. Hein. On se rend compte effectivement qu'il y a trop d'auteurs qui sont absents, qu'il y a eu un écrétage et un écrémage politique. Hein, et donc, on est convaincu que cette anthologie est une trahison. Est une trahison de la poésie, est une trahison de l'Allemagne poétique. Et donc, que ce qui se passe, on va répondre à cette anthologie par une autre anthologie. C'est pour ça que je parle de champ de bataille symbolique. Et là, c'est l'anthologie de la clandestinité, puisqu'elle paraît, elle est faite clandestinement. Hein, elle paraît en 1944. Et donc, elle va restituer ces auteurs qui manquaient dans l'anthologie précédente. Donc, on voit apparaître tous les auteurs, effectivement, qui manquaient, à savoir Heine, Bertolt Brecht, les poètes expressionnistes, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Franz Werfel, etc. Donc je pourrais encore citer d'autres noms, mais c'est une réponse qui est vraiment une réaction pied à pied. Hein. Donc on répond pour effacer les méfaits de cette ontologie officielle, et on dit que on pose une pierre d'attente, c'est-à-dire cette petite ontologie qui vraiment en soi très très peu de choses, hein, qui n'a jamais été rééditée d'ailleurs jusqu'ici, devait préparer une nouvelle ontologie qui allait paraître après la fin de la guerre. Or, cette ontologie n'a jamais été faite. Hein. Donc, on a uniquement ce petit ouvrage qui est vraiment, qui est émouvant en soi, hein, puisqu'il manifeste cette réaction de la résistance française de racheter par la traduction l'honneur perdu des poètes allemands, hein, et en particulier des poètes classiques qu'ils considèrent avoir été embrigadés par le nazisme. Donc, ces poètes classiques comme Goethe, comme Schiller sont de fait considérés comme des poètes en exil. Hein. Et donc, il revient à la résistance de racheter l'honneur de ces poètes-là, hein, en les faisant figurer autrement, hein, dans un autre cadre que le cadre d'une anthologie officielle. Donc, on voit que l'enjeu, l'instrumentalisation de la poésie en temps de guerre est absolument important et réel. Ce débat et ce combat se déplace aussi dans les revues, puisque nous allons avoir des numéros anthologiques qui vont faire apparaître justement de nouveaux auteurs, hein, de nouveaux choix d'auteurs. On voit cela dans les revues de zone libre, hein, comme par exemple Poésie, qui est la revue de Pierre Segers, Fontaine, qui paraît à Alger, Pyrénées, qui paraît à Toulouse. Donc, toutes ces revues constituent des petites anthologies dans leurs pages. Et ces anthologies, bien sûr, expriment la volonté de ne pas se laisser dicter sa bibliothèque d'en haut, si on peut dire. Hein. Donc, on voit, par exemple, là, je vous ai mis en diapo, vous voyez sur à gauche, la couverture du numéro spécial sur la poésie espagnole, Poésie 41. Hein, donc, on retrouve certes des auteurs du siècle d'or qui étaient également promus, ou en tout cas que l'on traduisait dans la presse officielle, mais on trouve aussi des auteurs de la génération de 98, de la génération de 27, donc des auteurs qui, eux, par contre, ne seraient absolument pas en phase avec l'idéologie fasciste, hein, bien au contraire. Donc, ça, c'est dans la Poésie 41. Et puis, dans la revue Fontaine, vous avez ici un numéro tout à fait exceptionnel. Il paraît en 1943, c'est un écrivain et poète des États-Unis d'Amérique. C'est une anthologie qui a été coordonnée depuis les États-Unis par un philosophe traducteur qui s'appelle Jean Val. Il publie dans ce numéro des auteurs qui sont quasiment tous censurés, interdits par les listes auto. C'est-à-dire que ce sont des auteurs modernes, contemporains. Hein, Williams, Carlos Williams, Archibald MacLeish, Frédéric Procoche, E.E. Cummings, et j'en passe, hein, T.S. Eliot. Donc, tous ces auteurs-là, normalement, étaient interdits par la censure. Hein. Mais comme Fontaine publié à Alger, et que c'était après 1943, eh bien, voilà, ils se sont permis de faire ce numéro, qui est un numéro d'anthologie vraiment au sens strict, parce qu'il montre certainement le choix le plus vaste à cette date d'écrivains et de poètes récents de langue anglaise, issus des États-Unis. Donc c'est très intéressant de voir ce geste, qui est aussi un geste de défi vis-à-vis des préconisations de la censure. Hein, donc, c'est aussi une façon d'introduire des noms, hein, comme par exemple Langston Hughes, qui est un poète de la Renaissance de Harlem. C'est les premières traductions de Langston Hughes en français, hein, et elles sont dans cette anthologie de Fontaine. Alors, quelques remarques sur les enjeux de la traduction poétique. Hein, on voit qu'il y a une dimension symbolique de la traduction poétique en temps de guerre, en accord avec les auteurs qu'elle promeut ou qu'elle prohibe. Hein. Donc, en ce sens, voilà, il y a plusieurs cas que je vais évoquer, mais je vais passer assez rapidement. Le cas Hölderlin en 1943. 1943 est une année symbolique à plusieurs titres. Hein. C'est déjà l'année où on pense qu'on est presque sûr à partir de 1943 que l'Allemagne va perdre la guerre, mais c'est aussi l'année où on célèbre le centenaire de la mort de Hölderlin. Et donc l'occupant qui considère que Hölderlin est vraiment l'emblème de la germanité poétique veut donner du lustre à ces manifestations en organisant des conférences, des lectures un peu partout en France, dans les différents instituts allemands que comporte le territoire. On voit qu'il y a une volonté de faire connaître plus largement Hölderlin, des traductions qui sont publiées dans la presse favorables à l'occupant. On voit apparaître pas mal de textes. Mais on voit également que Hölderlin est, je dirais pas récupéré, mais en tout cas réapproprié par la contestation, on va dire une certaine dissidence, puisqu'on trouve des traductions de Hölderlin aussi dans des revues qui sont considérées comme faisant partie de la légalité subversive, donc la revue Poésie en particulier, la revue Confluence. Donc on trouve du Hölderlin aussi bien du côté allemand officiel que du côté légaliste subversif, donc des revues qui ont le droit de paraître, mais qui se permettent parfois des petites choses comme cela, et parfois ont des problèmes avec la censure justement. Et Hölderlin est intéressant parce que cette même année, il était au programme de l'agrégation de l'allemand. Et donc, on a une germaniste dont le nom est connu de tous les amoureux de la poésie allemande, qui est Geneviève Bianchi. Geneviève Bianchi, qui était professeure d'allemand à l'Université de Lyon, plutôt d'orientation communiste, qui avait donc été déchue de son poste dès le début de l'occupation. Et donc, comme quand même elle était germaniste, on lui a demandé de faire des traductions de Hölderlin pour le programme d'agrégation de cette année-là. Et donc, elle publie un volume de poèmes de Hölderlin sans visiblement avoir compris, d'après ce qu'on sait de ses archives, en tout cas, en s'étant rendu compte très très tard qu'elle s'était faite piéger en participant à une initiative qui était en fait idéologiquement marquée. Elle avait l'impression qu'elle traduisait Hölderlin pour un programme d'agrégation. En fait, elle faisait partie de tout un programme idéologique de valorisation de Hölderlin comme poète de la germanité et de la supériorité germanique. Parfois, voilà, les traducteurs se font piéger de façon plus ou moins naïve. Deuxième point, ce que j'avais dit tout à l'heure, on voit que cette époque est propice au débat sur la manière de traduire. C'est ce que j'appelle un début de traductologie comparée. C'est étonnant parce qu'on penserait que ce n'est pas forcément le sujet qui préoccupe le plus les gens à cette époque-là. Et on est surpris de lire dans les journaux, en particulier, des colonnes, des tribunes où on compare des traductions, on fait valoir des points de vue de traducteurs, on s'oppose, on débat, on conteste. Et donc, on se rend compte qu'il y a un fort intérêt au geste traductif. Pas seulement aux auteurs que l'on traduit, mais au geste lui-même et à la façon dont on s'y prend pour traduire. Et on voit cela vraiment de manière très très frappante pour deux poètes, en particulier donc le poète Federico García Lorca et Rainer Maria Rilke, qui sont sans doute les deux les plus commentés pendant cette période-là. Et on se demande pourquoi d'ailleurs, pourquoi, qu'est-ce qu'ils symbolisaient à cette époque-là, est-ce qu'ils symbolisaient le poète antifasciste martyr dans le cas de Lorca? Et pourtant, dans la presse de l'occupation, Lorca est présenté autrement. On le présente comme le poète andalou. Quant à Rilke, est-ce que c'était le pur poète pacifiste? Comment est-ce qu'il était appréhendé? Pourquoi ce si grand intérêt pour Lorca et Rilke? Ce sont des questions qui sont intéressantes à poser. Quoi qu'il en soit, la traduction poétique s'affirme comme, je dirais, un art de lire clandestin au carré. C'est un art de lire parce que la poésie est toujours un discours un peu codé, mais quand il s'agit de traduction, c'est encore redoublé, parce que par la traduction, on peut justement infléchir le sens. On peut introduire des petites subtilités, des petites nuances, et on le voit très bien, en particulier quand on traduit de la littérature antique ou bien de la littérature régionale. C'est deux aspects qui sont très intéressant de voir comment, sous le prétexte de la littérature gréco-latine, par exemple, on fait passer des messages qui sont des messages très actuels concernant vraiment les réalités de l'occupation. Donc, la question que je me suis posée, c'est, en ayant vu tout cela, est-ce que traduire les poètes pendant cette période, ce ne serait pas un exercice de liberté, un acte d'émancipation? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on ne comprend pas confusément qu'en traduisant, eh bien, on s'interroge sur le sens? On interroge la manière de construire le sens et on constate aussi la relativité du sens. puisque comme toute traduction, il n'y a pas d'interprétation objective d'un texte, hein, toute traduction étant un acte éminemment subjectif et destiné à être repris, à être sans cesse recommencé. Donc est-ce que cette prise de conscience, cette réflexion sur le sens et sur la manière dont le sens peut être construit, peut être multiple, est-ce que ce n'est pas un moment où le pays est inondé de discours propagandistes? On sait à quel point ils sont tendancieux. Est-ce que ce n'est pas une façon de se réapproprier hein, le sens? Et donc ici, est-ce que ce n'est pas, pour reprendre les propos de Tiphaine Samoyo dans son ouvrage Traduction et violence, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que la part d'interprétation laissée à la traduction est un espace potentiellement sécessionniste et émancipateur? Ce qui expliquerait, en rebouclant sur ce que j'ai dit au début, pourquoi la poésie est particulièrement favorisée aussi par le parti adverse. Voilà, et pour finir, je dirais que tout cela, ce ne serait pas possible, et vous en avez parlé tout à l'heure, mais tout cela ne serait pas possible sans les passeurs eux-mêmes, donc ces passeurs qui sont très importants pour construire ces nouvelles bibliothèques. J'ai eu l'occasion de donner quelques noms, donc Jean Val, Geneviève Banqui, mais on a aussi des personnages comme André Terrive, André Meyer, Jacques Decour, Paul Demand, le poète Armand Robin, et tous les autres qui ont contribué, dans un camp ou dans l'autre, à faire émerger ces auteurs, nouveaux ou anciens, selon les partis pris de chacun. En bilan, ou en conclusion, provisoire, je dirais que cette opération de traduction menée en France par l'occupation a eu un succès finalement plutôt mitigé, et le nombre de traductions n'a pas été atteint. Hein. On pense qu'il y a eu vraiment à peu près 300 traductions réalisées hein, sur les 500 qui avaient été prévues. Donc, ce n'est pas réellement un succès. Tout cela est aussi dû au fait que la France a particulièrement résisté. Hein. Il y a eu une résistance des milieux culturels français, à la pénétration allemande. Et on s'en rend compte, en particulier quand on consulte les archives du ministre des Affaires étrangères à Berlin, qui renferme tous les documents de cette époque-là, on voit que l'occupant se plaint vraiment du manque de coopération des Français, du manque d'enthousiasme à vouloir vraiment s'impliquer dans ces initiatives. Et donc finalement, c'est un petit peu avec une certaine passivité que la France a accueilli ce genre d'action, hein, ce qui explique que ça n'a pas vraiment été un grand succès finalement. Ce qu'on a vu également, c'est que donc, les enjeux idéologiques liés à la traduction sont toujours vrais, mais ils sont rendus d'autant plus manifestes en temps de guerre. Hein. Toute traduction a certainement lié hein, à un projet, mais en temps de guerre, ou en temps de, je dirais, sous contrainte, en temps de régime contraint, fasciste, totalitaire ou autre, eh bien, les enjeux idéologiques ressortent avec encore plus plus d'acuité. Finalement, on voit que la poésie a été très instrumentalisée, hein, ainsi que les poètes, d'un côté autant que de l'autre. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je propose de me pencher davantage, c'est-à-dire de quoi cela est-il le nom, hein, ce désir de poésie et ce désir de traduction de la poésie en temps de guerre. Ça sera une piste à creuser. Et pour terminer, je dirais que cette période et ce projet de recherche eh bien, nous a permis de regarder différemment les réalités de cette période troublée. En ce sens, il ne s'agit pas de phénomènes contingents, mais je pense au centre vraiment de ce qu'était la vie culturelle française durant les années noires. Je vous remercie de votre attention.